le plus rapide à avoir fait le 39-21, c'est Raphaël. Bonsoir Raphaël. Allô ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, oui, je me suis dit, allez hop, on tourne le coup.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, de quoi est-ce que vous avez...
de m'en recevoir.
Avec grand plaisir, de quoi est-ce que vous avez envie de parler ce soir ?
De pas mal de choses.
Voilà, je me pousse et je vous fais une petite place dans ce studio à côté de moi. Ça vous va ?
C'est parti.
Allez.
Donc, là, pour faire le topo, je me trouve donc dans le sud-ouest, c'est au Chenet. Je suis à peu près à 20 km. Vous pouvez entendre peut-être les grillons derrière, je ne sais pas. Et Non, c'est pas grave. Je voulais parler de plein de choses, mais il faut peut-être aussi m'aider sur un sujet qui éventuellement vous intéresserait concernant, parce que moi j'ai plein de trucs à dire sur toutes sortes de choses. Et là, c'est tellement un petit peu confus, et bon, c'est toujours un petit peu stressant de passer à la radio. J'étais passé chez Sophie Peters à l'époque.
D'accord. Est-ce que je peux vous demander, Raphaël, juste de parler un peu plus loin de votre téléphone, parce que ça crachouille un peu.
Juste d'accord, mais attendez, parce que j'ai les écouteurs, je vais enlever les écouteurs et
ça combiné. Ça serait gentil, oui, ça sera peut-être plus clair.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
Ok, ouais, c'est mieux comme ça ?
Ah oui, nettement, ah oui.
D'accord, bon.
Merci.
Je voulais parler aussi du fait qu'on sort d'une période là quand même assez... c'est imprévisible, c'est improbable pour tout le monde.
Oui.
Et échanger aussi là-dessus.
Comment vous l'avez vécu, vous, depuis le début ?
Alors moi, si vous voulez, je suis quelqu'un d'assez reclus, entre guillemets, en règle générale. Je fais pas mal de bivouac en montagne, etc. Je m'isole beaucoup des gens en général. Donc je l'ai vécu peut-être, on va dire, plus facilement que quelqu'un de lambda qui est amené à voir du monde tous les jours et... établir des contacts sociaux.
Je comprends, mais avant l'annonce du premier confinement, moi je me souviens les tout premiers jours, comment est-ce que vous avez vécu l'annonce de cette pandémie ? Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie, votre santé ? Parce que au début, on était tous paniqués. J'ai l'impression qu'on n'osait plus sortir, on n'osait plus rien toucher, on n'osait plus parler à qui que ce soit. On avait l'impression qu'on allait tous mourir dans l'histoire.
Moi, en fait, je pense qu'il y a eu un matraquage médiatique très fort,
qui est apparu aussi dans les
magasins, en surface, etc. Mais moi, de mon côté, j'ai pas eu peur, si vous voulez, du virus en lui-même. Après, évidemment qu'il y a eu plein de théories complotistes ou pas, bon, etc. Et qu'on s'y perdait parce que c'était une info pour une autre info contradictoire. Et du coup, je pense que ça a aussi joué sur l'impact psychologique des gens, plus peut-être même que le virus lui-même, quoi. Mais d'un point de vue de peur du virus, quoi, c'était non, moi, j'étais pas plus inquiet que ça, quoi. Ouais. Après, oui, j'ai bien vu que, déjà qu'il y a un malaise dans les supermarchés où, en général, il y a quand même un malaise entre les gens, relatif, c'est contextuel, mais ça n'a pas rangé le truc, quoi. Donc, après, non, j'ai pas eu peur du.
Non, pas plus que ça. Bon. Et vous dites que le confinement, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, quoi.
Ah, mais si, quand même. Quand même. Le premier, c'est tombé comme un coup près, quoi, le truc. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas vraiment. Et c'était le problème, c'était d'une. Moi, je suis une famille de militaires, donc en termes militaires, entre guillemets, une pandémie, quoi, c'est un truc qui est visible. Sauf que là, c'était une pandémie invisible. Et quand tout s'est arrêté, quand le monde s'est mis en stand-by, on s'est bien rendu compte finalement que. Comment dire ? On se retrouvait tous face au problème de notre société, au problème de notre système mondial, hein. Sauf qu'avant, on avait évidemment les terrasses, les machins, les restos pour justement s'extraire un petit peu du fait que dans notre monde, dans notre système, il y a un truc qui tourne pas rond. Sauf que là, on était tous plus ou moins confrontés, comme ça, de façon brutale, à la réalité des choses. Au fait que, que le monde va mal, ouais. Alors maintenant, je sais pas, on parlait beaucoup du monde d'après, j'entendais parler du monde d'après, j'entendais dire oui, les consciences vont s'éveiller, tout ça, ça va changer... Mais je me rends compte qu'au final, non, mon point de vue, ça ne change pas grand-chose, quoi. Même si après un an et demi, il faut bien se dire que ça peut être des confrances non plus. Donc, pour clore cette parenthèse. Enfin.
Qu'est-ce que vous faites, vous, comme métier, Raphaël ?
Moi, je travaille plus. Je m'exerce à... Comment dire ? À être heureux, c'est un peu
c'est joli comme phrase, je veux dire, c'est être heureux. J'aime bien.
Ouais, Enfin, il faut, ouais, c'est un peu dictatorial, j'aime pas dire ça, mais bah, si vous voulez, j'ai eu le temps d'observer et de vivre différemment, sans passer par les académies. Et ouais, par exemple, je fais de la radio, je suis radio amateur. Donc, s'il y a des radio amateurs qui m'écoutent, pas animateur, hein, radio amateur.
C'est quoi, c'est comme l'ancienne, c'est ce qu'on appelait la CB avant?
Alors, la CB, donc, c'est un petit peu ça, oui. Bon, la CB, c'est, ça veut dire Citizen Band, donc bande citoyenne. Qui est beaucoup revenu d'ailleurs chez les routiers, etc. Et même pour les.
Ah, ça revient maintenant, gens... ça, c'est vrai?
Ah oui, ça revient, bien sûr, même pour les gens qui ont des vannes, qui font
des nomadismes,
etc. Oui, oui.
Ah, j'avais tout adoré tout ça à l'époque, vaste, hein. au début de la CB, c'était génial, ça.
Ah bah oui, mais c'est, ça n'a jamais vraiment disparu, quoi. Après, si vous voulez, après, il y a le PAMER 446, il y a le DMR, donc pour le numérique, la FM, que moi je tape sur les talkies, c'est-à-dire en fait, là j'avais un talkie, j'ai écouté l'émission. Mais bon, c'est très vaste, le monde de la radio, ouais. Vous devez savoir, sans vraiment savoir, mais ouais. Donc c'est des radioamateurs qui m'écoutent, 73-51 les gars, et puis voilà, ça veut dire, c'est les bons chiffres, ça veut dire bonjour et poignée de main, quoi.
D'accord. Voilà.
Et la copine d'un radioamateur, c'est une YL. Après,
c'est bon, la pub est faite.
Ouais, YL. On dit, bon, il y a des termes comme ça, la radio. Après, ouais, non, la radio, en fait, moi, si vous voulez, j'ai tous les bus de ma ville, mon capot, le système des bus, hein, Idélis, pour pas le citer. Et les gars, ils passent super loin. Donc, des fois, je suis en montagne, je fais une rando, bam, et j'entends tout ce qui se passe en ville.
D'accord.
Et c'est aussi pratique pour circuler en voiture. Le problème, c'est qu'après, il y a des amalgames. On a tendance à dire, mais bon, qu'est-ce que tu fais avec ta radio? Faut en prendre pour un policier, etc. Bon, c'est pas grave. C'est pas
oui,
grave.
Ça crée un vrai réseau, en fait.
Oui, oui, comment dire, c'est une communauté, quoi. C'est une passion. Par exemple, aux États-Unis, dans des pays comme l'Argentine, ou enfin des grands pays où il y a des espaces très très plats et qu'on nique beaucoup par radio en famille, c'est légion, quoi, là-bas. Ici, c'est vrai que c'est pas très démocratisé.
C'est vrai.
Voilà. Bon, après, on s'est un petit peu écarté du sujet du.
Oui, pardon, c'est moi qui vous ai embarqué sur ça. C'est des vieux souvenirs qui remontent, c'est pour ça.
Pardon.
Je dis, c'est moi qui vous ai embarqué vers ça, mais c'est des vieux souvenirs qui remontent, c'est pour ça.
Ah oui, vous aviez quelqu'un de radio amateur dans votre famille?
À l'époque, il y a longtemps, oui.
Ah oui, tiens.
Dites-moi, Raphaël, dans quelques instants, il va y avoir les infos.
Ouais.
On se retrouve juste après? Vous êtes d'accord?
Oui, bah, ok, pas de problème.
Et on recadre le sujet que vous vouliez aborder à ce moment-là.
Ça marche.
Hein, on va laisser un petit peu les journalistes s'exprimer, et puis on va se retrouver okay, juste après pour reprendre notre conversation.
Ça marche.
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et on vous retrouve, Raphaël. Allô, allô?
Oui, je suis là.
Vous êtes là. Alors, quelle était la raison de votre appel avant qu'on s'égare sur les CB?
Eh bien, écoutez, c'est tout simplement parce que vous avez dit le premier qui appelle passe à l'entrée.
Ah, c'était le challenge, c'est ça?
Apparemment, j'étais le premier, j'ai peut-être fait mouche aussi.
Vous avez gagné, c'est vrai.
Voilà, et oui, non, mais j'ai plein de trucs à échanger, notamment sur. Il y a pas mal de féminicides en ce moment. Et apparemment, ça s'est provoqué aussi par les suites, les conséquences du confinement.
Donc, ça n'a rien arrangé, ça a déclenché beaucoup plus de violence encore qu'avant. Ouais.
Voilà, violence intrafamiliale, etc., sur fond d'alcool également la plupart du temps.
Ouais.
Alors je peux vous parler d'alcool aussi parce que je suis alcoolique, même si je dis que je suis alcoolique à temps partiel, c'est-à-dire tous les soirs, le soir je bois. Je bois du rosé. Maintenant, la journée, je pose la bouteille, je fais ce que j'ai à faire. Même si, je vais pas vous le cacher, il m'arrive de conduire complètement d'équerre. Hein. Même si c'est pas très exemplaire, mais enfin...
Et ça fait longtemps que vous avez ce souci-là?
Ben, j'ai 39 ans, j'ai eu 39 ans en avril. Je bois depuis 1998. Après, je suis pas le matin à me réveiller avec les mains qui tremblent et devoir boire une gorgée ou un verre pour faire ce que j'ai à faire. Mais ouais, c'était suite à ma première rupture vraiment amoureuse. Donc, à cette époque-là, je rentrais de La Réunion. J'avais été à La Réunion, mon sacien de sujet encore. J'étais voir mon père, que je n'avais pas vu depuis 10 ans à l'époque, parce qu'il était né à Madagascar. Après, il était à La Réunion, après, il était en métropole, etc. Bon, c'est une autre histoire. Et quand j'ai perdu mon premier amour, en fait, je buvais une bière ou deux, des grandes, là, pour me donner du courage, pour l'appeler, pour lui parler. Et là, je me souviens que ma mère m'avait dit « Fais gaffe, Raphaël ». Ça commence par une, deux, puis trois, quatre.
Tu mets le doigt dans un engrenage, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis ça n'a pas loupé, mais après, bon, je pense qu'on peut tempérer aussi. Je dis pas que l'alcool, c'est aussi un choix, mais quelque part, oui.
Même jusqu'à un certain stade. Après, je suis pas sûr.
Ouais. C'est ça, c'est ça.
C'est comme la cigarette. Il arrive un moment où ça n'est plus un choix.
Ouais, ben, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que quand on boit, on fume beaucoup plus.
Souvent, oui.
Et voilà, donc le problème de l'alcool, moi j'ai entendu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de cas là, de féminicide ou de tentative. Peut-être qu'on en parle plus aussi, parce que les langues se délient aussi, peut-être, du fait de la pandémie, du confinement, etc.
Et puis j'espère, comme toutes les violences, qu'on arrive à enfin libérer la parole autour de ça.
Hein. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Ouais.
Que les femmes osent, maintenant.
Ouais, il faut. Mais le truc, c'est que moi aussi, des fois, il m'arrive d'être violent, en propos ou en acte, défoncer des portes, ou vraiment me transformer. C'est-à-dire, l'alcool peut transformer le plus grand désir érudits, ou je suis musicien aussi, voilà. Même si je joue plus trop. Mais ça transforme quand même globalement la personne. Alors bah, est-on quand on est à 3 grammes et qu'on ne se souvient pas qui est-on ?
On en parlait hier soir, ça s'appelle avoir l'alcool mauvais, c'est ce que vous me dites. Hein.
C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ou l'alcool fou.
Est-ce que vous avez essayé d'arrêter ? Est-ce que vous avez eu envie de vous faire aider ou même pas ?
Bah, j'avais posé la bouteille il y a presque 4 ans maintenant. Pour passer mon permis de conduire, moi je me suis mis tard, mais enfin bon, après 4 échecs quand même, je me suis dit, mec, bon, il faut que...
voilà, donc
je l'ai posé pendant un mois, parce que j'ai eu la date de l'examen par mon directeur d'auto-école, donc j'ai décidé, bon, je me suis dit, allez, là, tu te violences, t'arrêtes.
Et vous avez réussi.
Après, oui, j'ai réussi, bon, ça a été, au début, bon, il y a des paliers, hein, il y a le palier de 5 jours.
Ouais.
C'était compliqué. Après, moi, je fais au moins de 200 pompes minimum par jour, histoire d'entretenir un petit peu la carcasse, quoi.
Mmh.
Et je me rappelle qu'au bout d'une semaine, quand je faisais mes séries de pompes, à chaque fois, je saignais de la narine gauche. Alors pourquoi, j'en sais rien. Et ça m'a marqué, ça. Au bout de 10 jours, je me sentais quand même mieux. Au bout de 12, 13, 14, 15 jours, j'étais redevenu quasiment normal. Bien, enfin, j'étais bien dans mes bases, quoi. J'avais plus d'angoisse, rien. Souriant, j'ai plus les sourcils froncés comme je peux avoir des fois. Et puis voilà. Après,
et alors, le permis, vous l'avez eu ?
Oui, je l'ai eu, oui.
Ah, voilà.
Je l'ai eu, et c'est vrai qu'il fallait que je le fasse. Donc, et puis, je l'ai appris par mon directeur d'auto-école qui m'a appelé, je m'en rappelle, à 23h31. Alors, qui fait ça ? Quel directeur d'auto-école
fait ça ? C'est bizarre.
Enfin, bref, il a fait 23h31, et là, c'est la narine droite que j'ai saignée. Bon. Donc, j'ai appris ça, j'étais content, évidemment, parce que depuis, bon, ça m'a quand même bien changé la vie. D'accord.
Mmh.
Et au début, donc, je m'étais commandé un éthylomètre numérique sur Amazon. Donc, je soufflais, il y avait le trou qui apparaissait, le taux. Des fois, je pouvais rester 12 heures dans ma caisse à attendre d'être à zéro avant de repartir. Quoi.
Mmh.
Et j'avais été aux Alcooliques Anonymes. Et puis, bon.
Vous avez tenté ça quand même ?
Ouais, deux fois. C'est intéressant parce qu'aux Alcooliques Anonymes, il y a toutes les couches sociales. C'est ça qui est intéressant, mais on est tous unanimes. Les alcooliques unanimes aussi, hein, on peut dire. Pour dire qu'on a tous fait de la merde. Et la plupart du temps, quand on fait de la merde, on ne s'en souvient pas, quoi. C'est ça qui est terrible, quand on boit. C'est que, on peut être quelqu'un de super bien, et après, se transformer en bête sauvage. Voilà, c'est ça qui est terrible. Mais bon, ça se tempère aussi, tout ça.
Mais pourquoi vous n'y êtes allé que deux fois ?
Bah parce que je me suis dit que ça me servirait pas finalement à grand chose. Excusez-moi, il y a un camion qui passe là. Je sais pas si vous m'entendez.
Non, oui, je vous entends, j'entends pas encore le camion. Ah, ça y est, ça vient. Ouais.
Ah, voilà.
Non, c'est bon, c'est bon. C'est ça passe.
Et ouais, non, mais après, j'ai été deux fois, on a eu des échanges assez intéressants. Par exemple, il y avait un gars là qui s'appelait Pedro, un mec. Un mec des gens du voyage, un gitan, quoi. Après, j'en ai connu des gitans. Hein. J'avais improvisé avec des... Bon, bref, ça, c'est une autre histoire, bref, on s'en fout. Et lui, c'est un mec qui avait 40 et quelques, 42, 43, il disait... le problème, c'est quand je bois, je deviens super violent.
Oui.
Alors qu'au demeurant, c'est un ange, quoi. Et c'est ça qui est bizarre avec l'alcool, c'est que chez certaines personnes, il y a des gens qui vont boire et qui vont jamais être agressifs ou...
Il y en a même au contraire qui se mettent à rigoler ou qui s'endorment. Ouais. C'est très différent selon les gens.
Voilà, ouais. Donc c'est assez vaste. Et après, c'est comme pour les cures. Je ne veux pas en faire parce que la plupart des gens que je connais qui en ont fait, ils m'ont dit on est sorti de là, mais on s'est enchaîné, je ne sais pas combien, on s'est mis une race.
Ouais, ça a recommencé.
Et ouais.
Dites-moi, à ces réunions-là où vous êtes allé, il y avait plus de femmes ou plus d'hommes ?
Pardon ?
Aux réunions où vous êtes allé, est-ce qu'il y avait plus de femmes ou d'hommes ?
Ah, bah, alors là, c'est. Enfin, je dirais. En pourcentage, je dirais 70-30.
Dans quel sens ?
Il m'arrive même des fois de voir des petites mémées, mais un genre de 80 balais, qui achète un cubi de rouge, ou même un papy, l'autre fois, il avait 15 bouteilles de muscat. 15 bouteilles de muscat dans le chariot. C'est ce que je buvais aussi à une époque. Bon, une époque Ricard, une époque. Pas faire de la pub, mais enfin bon. Mmh. Voilà, non, mais. Oui, après, l'alcoolisme féminin, c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose.
Pourquoi c'est autre chose?
Je dirais que c'est étroitement lié à une forme de nymphomanie.
Ah, moi, j'aurais dit de solitude plutôt, vous voyez.
Ah ouais, je sais pas, j'en ai connu. Hein. J'étais avec une nana alcoolique il y a 3 ans. Enfin, donc, c'était un carnage, quoi. C'était un carnage. Bah, j'ai pas tué, je veux dire.
J'espère bien.
Mais c'était carnage dans le sens où c'est pas de personnes qui boivent, quoi.
Vraiment, c'est pas une bonne idée, non, ça, c'est sûr.
C'est pas compatible. Ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'un soir, elle a pété un câble pour rien. Et moi, j'étais un petit peu moins sous que d'habitude. Et je me suis vu en elle, en fait. Je me suis dit, merde, ah ouais, je peux être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de raisonnement. On peut pas raisonner quelqu'un qui boit, on peut pas.
Mais vous avez quel âge, Raphaël? Je vous ai pas demandé.
39.
Ah oui, vous êtes super jeune. Et vous n'avez pas envie de...
Je vais raisonner un peu, mais...
Oui, avant tout, ouais. Va bien. Vous n'avez pas envie d'aller creuser un petit peu pour réparer tout ça ou éviter de continuer à essayer de boucher les trous avec de l'alcool?
Non, non, je vais pas les creuser, je vais pas les déterrer les cadavres. Non, je plaisante. Non, non, mais... Je crois que c'est comme m'avait dit Sophie Peters, elle m'avait dit arrêter de boire, c'est un choix intime, en fait.
C'est pour ça que je vous demande si vous en avez envie.
Ben, globalement, non.
Non.
Non, parce que je pense qu'à partir d'un certain stade, de toute façon, certains y arrivent, mais bon, à quel prix, à quelle torture, parce que l'alcool, il y a à chaque coin de rue, il est partout. Mm. C'est aussi un vecteur social. Et puis, je pense que. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je pense qu'on peut être alcoolique et se bouger le cul.
Vous le pouvez, je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, parce que vous avez a priori un caractère assez fort.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Il y a des gens qui se laissent totalement submerger et noyer par ce qu'ils boivent. Vous, ça n'est pas le cas.
Ah non, c'est pas le cas. Non.
Et vous êtes très lucide, j'ai l'impression, même quand vous buvez.
Ouais, bon là après ça va, je ne suis pas non plus trop. Trop alcoolisé, on va dire. Mais le problème, oui, c'est qu'il y a un moment où, si vous voulez, on perd le contrôle. Donc on boit la gorgée de trop, on boit le verre de trop, et là, c'est perte de contrôle.
Mais est-ce que vous le sentez, ça, au moment où ça bascule? Est-ce qu'il y a une toute petite partie de vous qui dit, hop là, ça y est, c'est parti?
Eh bien non.
Non, même pas. Non.
C'est ça, le problème. Mm. Parce que si on savait, ben, on ne perdrait pas le contrôle. Mais justement, il faut savoir qu'en France, où la majorité des pays... L'Occident, d'ailleurs, de toute façon, 80% ou 90% des crimes et délits sont commis sous l'emprise de l'alcool. Mmh. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que la plupart des féminicides, les mecs, ils sont en 3 grammes, quoi. Je ne dis pas que ça excuse, loin de là, c'est pas du tout...
Non, ça explique, ça n'excuse rien, mais ça explique.
Oui, c'est ce qu'on dit aux A, d'ailleurs, c'est ça. Ouais. Mmh. Mais je pense que, pour ma part, j'ai un pare-feu. Je ne sais pas, ça doit être inconscient, j'arrive toujours à m'arrêter. Avant de dépasser, quand elle tirait pas, j'en sais rien. Mais après, j'ai pas envie de tuer qui que ce soit, quoi.
C'est intéressant, le pare-feu. On marque une pause, si vous le permettez, Raphaël, et on en parle tout de suite dans une poignée de secondes. Merci.
Ça marche, ok.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Raphaël.
Oui.
Oui, je vous disais, c'est intéressant, vous me disiez, il y a comme un warning qui se met en route d'un seul coup. Comment ça marche, ça, chez vous?
Mais, je ne saurais pas vous dire comment ça marche. Après, c'est peut-être propre au parcours de chacun, c'est peut-être propre à la connaissance de soi. Je pense qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ne seront jamais en mesure de faire leur autocritique.
Ah, allô?
Oui.
Ah, faites attention, je vous ai perdu un instant, là.
Attendez. Ouais, je me décale. Vous entendez mieux, là?
Là, c'est parfait, voilà.
Ok. Ne bougez plus,
ne respirez plus.
Ok, je me mets sur un pied pendant 10 minutes.
C'est ça, un bras tendu.
Ouais. Non, en fait, je pense que, comme je disais, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que il y a des gens peut-être qui ont évolué dans des contextes de violence, qui vont rejaillir quand ils ont bu, ce genre de choses. Et on n'est pas égaux. On part pas tous avec les mêmes capacités, je pense.
Non, mais vous parliez-vous d'une limite que vous vous mettiez vous-même pratiquement automatiquement.
Oui, c'est ce que j'appelle un pare-feu. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que même dans l'inconscience, il y a peut-être une forme de conscience qui fait que quand on est quelqu'un de vraiment bien à la base, qu'on n'est pas, à la base, on a tous des parts sombres, je veux dire, mais ça peut vite arriver. Ça peut très vite arriver. Dans le milieu urbain, notamment, c'est pour ça que je fuis les villes, non pas par lâcheté, mais je m'en éloigne parce que, au fil du temps, peut-être avec l'âge, même si je suis encore relativement jeune, j'ai l'impression que j'aime pas l'humain, quoi. J'aime certaines rencontres, certains échanges qu'on peut avoir avec une personne, par exemple, qu'on a rencontré. On va parler 5-10 minutes, ça va nous dire une phrase, on se souviendra toute notre vie, quoi. Mais globalement, toutes les terrasses, les machins, quand des fois je suis à côté d'une terrasse et que j'entends des gens parler, je me dis, oh, putain, merde, ils ont rien à dire, quoi. Ils sont médisants, ils parlent des autres. Et bon, mais ça après, voilà, bon, chacun fait comme il peut, finalement, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de violence, un peu partout, alors surmédiatisée ou pas, je pense que c'est pas le propos, mais elle existe.
Bien sûr qu'elle existe. Mais vous, Raphaël, est-ce qu'il y a des choses que vous allez regretter d'avoir faites ? Sous alcool,
j'ai moi, je peux pas... non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Je pense à la chanson d'Edith Piaf. Pardon, excusez-moi. Je commence à être un petit peu allumé. Mais regretter quoi, finalement ? Et surtout, comment regretter quelque chose ?
Mais vous parlez de violence que vous avez quand même eue et ressentie en étant alcoolisé. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles vous repensez en vous disant non, là, quand même, j'ai été beaucoup trop loin, ça va pas, là.
Ah oui, oui, souvent. Mais le problème, c'est que comment intégrer le. Comment dire, quand on nous reproche à nous autres alcooliques ce qu'on a fait quand on était sous l'emprise de l'alcool et qu'on n'est plus sous l'emprise de l'alcool, on ne peut pas l'intégrer. Et c'est donc la double peine.
Vous n'avez vraiment aucun souvenir, rien du tout ?
Non, c'est quand vraiment je pars en freestyle, j'ai peut-être des flashs des fois, mais des fois je peux faire des trous noirs de 4-5 heures, des trucs, mais ce qui m'empêche pas de, résilience, hein, je tape du yep et hop, c'est reparti, quoi. Le lendemain, je bois 4 litres de flotte par jour minimum, sans me forcer parce que j'ai la goutte, depuis l'âge de 25 ans.
Ah oui.
Et d'ailleurs, j'ai pas eu de crise depuis 4 ans parce que justement, je bois de la flotte, comme mon doc m'a dit.
Ouais.
Mais je me force pas. Il y a des gens qui, je vois des gens qui picolent. Certains, ils voient même pas un verre d'eau, quoi.
Il y a vraiment, deux parties chez vous en opposition totale. C'est assez intéressant. Il y a une partie, partie de vous qui fait vraiment super attention à son corps, fait du sport, vous buvez de l'eau, vous faites gaffe, vous gérez. Puis il y a une partie qui a plutôt envie de se détruire, quoi.
Ouais, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Vous visez juste. Là.
Le petit ange et le petit démon.
Ouais, exactement. Mais peut-être en adéquation, en équilibre. Ou pas, je sais pas si. Qu'est-ce que l'équilibre ?
J'ai l'impression que vous passez votre vie d'un déséquilibre à un équilibre et ainsi de suite. Et que vous.
Ouais, puis il y a pas mal de confrontations aussi. Je pense qu'il faut se confronter à certaines choses, à ses peurs. Parce qu'on a besoin de. Ouais, on a besoin de confrontations, oui. Après, c'est très vaste, c'est très, très varié. Il y a une façon de se confronter, mais.
En tout cas, vous avez une analyse assez intéressante des choses, je trouve, assez profonde. Et une belle connaissance de vous-même, en tout cas.
Ouais, ça je me connais suffisamment pour justement prendre un peu de recul et être aussi conseillé. Moi, les gens se confient beaucoup à moi. C'est peut-être dû au fait que je m'appelle Raphaël. On sait rien.
Pourquoi ? À cause de l'ange ?
Non, mon prénom.
Mais pourquoi,
Raphaël,
pourquoi
Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Ça veut dire Dieu guérit. Et dans la Bible, s'il me semble, c'est le septième archange.
Oui,
il y a des gens qui. Moi, en fait, je pense, vous savez, je suis égal à moi-même. C'est-à-dire que, quel que soit le contexte, je peux parler à un ministre, ou bon, j'ai pas parlé à un ministre, mais quelle que soit la personne à qui je parle, je vais rester moi-même.
Vous êtes vrai, ça s'entend bien sûr.
Voilà. Ouais. Et par exemple, en psychiatrie, il y a ce fameux truc où le patient se met en infériorité par rapport au psychiatre, il se fout sur un piédestal. Et du coup, il ne peut pas être lui-même. Et donc l'échange ne peut pas être foutueux, quoi. Mmh. Ça ne peut pas donner un truc... Il faut être soi-même sans non plus être trop imbu de soi-même. Hein. Parce que bon, des fois, quand j'ai trop eu, ouais, je peux me la péter. Alors qu'en fait, c'est là qu'on croit qu'on sait tout sur tout, on ne sait rien. On croit qu'on est surpuissant, alors qu'en fait, beaucoup de balayettes, on est parti, il n'y a plus personne.
C'est vrai.
Et puis voilà.
Donc, c'est tellement ouais. Vrai, les images que vous avez, la façon dont vous en parlez.
Ouais. Bah oui. Il y a tellement à dire, que ce soit sur l'alcool, le monde, tout ça. Je me rappelle, là, il y a quelques temps, il y avait un ancien militaire qui s'est penché en Dordogne et qui a voulu... Enfin, je pense qu'il avait voulu, il aurait fait, hein, il aurait tué son ex et le nouveau conjoint de son ex. Mais il n'a pas fait. Et ouais, il y a eu une chasse à l'homme, 300 gendarmes, le GIGN et compagnie. Mais c'était un ex-militaire. Bon, je sais pas, je crois qu'il a encore envie, le mec, mais ils l'ont pas tué. Et mais le problème, c'est qu'il est alcoolisé. Et déterminé. Enfin, déterminé, du moins. Comment dire ? Il y a plein de cas comme ça de couples qui ont rompu, notamment parce qu'un des deux buvait, c'est souvent le mec en général.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui reste ?
Dit-il en buvant un gorgé.
Oui, oui, c'est du vasis tropical au raisin.
Ah.
Ouais. Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte de ça, mais je l'ai fait aussi. Bon, après, j'ai eu des compagnes qui ont été. Qui m'ont poussé dans le retranchement, quoi. Donc, je suis jamais allé sur la foutre sur la gueule ou. Non.
Mais est-ce que vous avez envie, vous, d'une vie plus tranquille, d'une femme, d'enfant, de quelque chose d'un peu moins houleux ?
Eh bien, justement, vous savez. J'ai rencontré ma copine il y a un an, sur le chemin, comme dans la chanson, dans un bled qui s'appelle Paris Spitat, pour ceux qui sont du Béarn. Et qui. Enfin bref, ça vous savez, c'est près de Pau. Et j'étais sur la route depuis pas mal d'années, puis j'avais eu le permis. Hein. Je faisais déjà beaucoup, pas mal de bivouac. Et j'étais fatigué. Ce soir-là, j'y étais en tranchant des coteaux du Jurançon où je pouvais aller. Et ce spot que je connaissais très bien. Donc là, je monte, j'avais les idées noires, j'étais complètement dépresso, quoi. Je me voyais déjà en bas de l'affiche, quoi.
Mm-hmm.
Ou pendu au bout d'un chêne, bref. Et puis je passe et je vois une nana sur son transat, avec un van Volkswagen.
Avec quoi ?
Un van Volkswagen.
Ah, un van, oui.
Voilà. Mais bon, c'est plus regarder la nana que le van.
J'imagine.
Et sans idée, sans arrière-idée, sans pensée de sexe ou quoi que ce soit. Même si plus tard, apparemment, elle m'a dit que j'étais venu, mais enfin bon, ça ne s'est pas fait. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Je m'arrête pas. Donc, j'ai fait le tour de l'église, de Notre-Dame de Pietas. Je suis retourné à son niveau. Je lui ai dit, est-ce que je peux bivouaquer à côté de vous ? Elle fait, ouais. Et puis, en fait, à l'époque, elle avait un chien qui, malheureusement, nous a quittés entre-temps. Donc, moi, j'étais de mon côté, sur ma chaise de pêcheur, quichois, même si je fais pas de pêche. et puis, elle ne m'en voyait pas, quoi. Et en fait, c'est le chien qui a fait la jonction. Il m'a amené un bâton, j'ai lancé, puis finalement, elle est venue boire une bière, et puis on a passé une soirée comme deux gosses, comme deux gamins. Il y a eu une averse, on s'est marré. Après, je voulais aller dormir avec elle dans le van. Elle m'a dit non. Et puis le matin, elle est venue toquer à la portière de ma voiture qui s'appelle Gwendoline. Parce que l'ancienne s'appelait Gisèle.
D'accord.
Celle-là, je l'appelais Gwendoline.
Ok.
Donc, dédicace à tous les. Possesseur de ces trois Picasso. Et du coup...
Ça va peut-être aller pour les pubs, là, maintenant, Raphaël. Hein, ça suffit.
Ouais.
Vous en citez beaucoup, là.
Je peux comprendre.
Oui.
Et du coup, elle m'a laissé son numéro le matin. Et puis voilà. Bon,
Et donc, ça fait un an que ça dure ?
Ouais.
Et ça vous donne pas envie de vous poser un peu ?
Ah ben, si, totalement, oui.
Donc, ça serait qu'il n'y ait pas de débordement, de risque de tout foutre en l'air ?
Ah, il y en a eu... relativement léger, mais on a passé toutes les vagues là. Maintenant, je sais que là, m'écoute sur la radio là-bas, sur Tolki. Mais
je vous fais un petit coucou au passage alors.
Ah, bah oui, elle s'appelle Justine.
Justine, on vous embrasse.
Voilà, moi d'autres avis, j'entends.
Oula.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes, plus coût du SMS.
Raphaël ?
Oui.
Pardon, ça s'appelle une erreur technique, c'est rien. J'ai juste eu peur. J'ai juste eu peur. Et donc, oui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez quand même une vie amoureuse qui tient la route, là.
Bah oui, c'est le cas de le dire, oui. Bah oui, parce qu'en plus, on compte qu'il n'y a pas, si vous voulez, voilà, on n'est pas passé par Tinder, ou... même si souvent sur Tinder, le but n'est pas de...
Il y avait longtemps que vous n'aviez pas fait une petite pub.
Ouais, je fais du placement de produits, ouais.
Non, mais ça, on va arrêter ça. Hein.
J'avoue, oui, non, excusez-moi. En plus, je suis pas rémunéré, donc... Ouais, non, mais... Oui, voilà, c'est une belle histoire, quoi. C'est une belle histoire. Bon. Je pense que c'est une histoire qui va durer, et bon...
Ben je vous le souhaite, Raphaël. En tout cas, je vous souhaite de garder cette lucidité, cette connaissance des choses et de vous-même, et d'arriver à trouver plus de moments d'équilibre que de moments de déséquilibre.
Ben merci beaucoup, Sabine. Merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir écouté. Donner la parole. Et puis, je voulais juste aussi saluer tous les gens qui sont en difficulté, que ce soit à la rue, ou en prison, ou etc. Pas les vrais salauds. Hein, parce que les vrais salauds, je m'en tape. Ce qu'ils méritent, mais voilà. Et un message d'amour, de paix, et vous dire que je pense qu'il faut rester fort, surtout.
Le message est passé, fort. Merci beaucoup, voilà. Raphaël, merci beaucoup.
Merci à vous pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne soirée, Sabine.
Au revoir.